13h30, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servagent.
On ne savait pas que vous étiez un amateur de feuilletons et que vous proposiez désormais des émissions par épisode.
On ne se lasse pas de Mara Goyet, professeur d'histoire. Même l'Élysée l'invite. On l'avait entendu après le 7-8 janvier. Et la voici de nouveau dans une chronique de ses jours ordinaires de professeur d'histoire dans un collège.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Le témoin de ce vendredi, Mara Goyet, professeur de collège.
Monsieur Poutine ?
Moi, vouloir parler, prof histoire-géographie.
Madame Goyet ?
Madame Goyet, c'est quoi cette carte Europe que vous enseignez enfant ?
Qu'est-ce qu'elle a ?
Sur carte, avoir encore Ukraine, alors que Ukraine être Russie.
Non, c'est pas sûr encore.
Ah bon ? Tu crois que Europe empêchait moi prendre Ukraine ?
Non.
Alors, Madame Goyet, vous tout de suite mettre Ukraine en Russie au programme 2014-2015.
Il y a les injonctions, généralement vaines, des politiques. La ministre, en France, nous voulons construire l'école du socle, avec une continuité de la fin du primaire au début du collège. Et elle ajoute, c'est formidable qu'au collège, on donne envie aux élèves de créer leur propre entreprise. C'est la dernière marotte en date. Il convient de suivre la nouveauté, comme le chien l'os quand on est enseignant. Mais la difficulté, c'est qu'on ne sait où donner de la tête. Les spécialistes de l'éducation poussent comme chiens dents dans le pays. Et il y a aussi les nouveaux paramètres de l'évaluation, les mêmes qui maudissent les notes, s'agenouillent devant les classements PISA. En revanche, l'idée de mettre l'enfant au centre finit par faire consensus. L'élève, dont on cherche parfois comment ouvrir les portes et les fenêtres en douceur, en poussant sur l'espagnolette ou en force avec une barre à mine, l'élève, en tout cas tel qu'il est, avec son univers de représentation, la terre sans frontières, le présentisme qui aplanit tout, l'esprit de parodie dominant aujourd'hui. Le net est le plus fort, le jeu vidéo aussi, les groupes musicaux, etc. Reste à faire du judo avec qui est le plus fort. Ou puisque nous allons parler notamment de l'enseignement de l'Antiquité, à procéder comme Ulysse avec la même ruse, la métisse, et le même esprit d'amitié qui le liait à ses compagnons.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Mara Goyet, alors le succès des livres que vous consacrez au collège depuis beaucoup d'années, le dernier chez Flammarion, Jules Ferry et l'enfant sauvage, le blog que vous avez tenu, que vous tenez toujours, Mara,
encore, oui.
Sur le site du Monde, font que vous êtes suivi par beaucoup de fidèles, invité même au grand journal de Canal+. Les collègues de votre collège de Paris doivent, quand ils vous voient, penser que vous avez l'esprit potache d'une adolescente de 14 ans.
Moi, au moins, je le reconnais. Je crois qu'on est tous assez potaches au collège. On est enfermés dans un collège depuis 10, 20, 30 ans. C'est nos 20e, 6e et 5e. Donc, on est des enfants qui mûrissons sur place. Je crois que je suis la face émergée de l'iceberg infantile.
Vous mûrissez sur place. Mais dès vos premiers livres, qui étaient Étonnants de liberté, on se disait, bon, elle va devenir chroniqueuse à la télévision. Eh ben non, vous êtes restée professeur de collège, au point qu'on se demande si vous ne faites pas du collège où vous enseignez un objet de littérature.
D'abord, j'aime ça. Il est possible d'aimer enseigner. Et puis, oui, je crois que c'est un objet assez indéterminé. C'est une sorte d'ovni, le collège, dans lequel on a enfermé des adolescents furieux, des professeurs enfermés dans cet espace étrange, des programmes extrêmement difficiles à tenir. Je trouve que c'est une sorte de parenthèse à la fois diabolique et enchantée qui mérite un traitement littéraire. Oui.
Vous avez aimé dès le premier jour, dès la première heure.
J'ai eu très très peur. La veille, j'ai failli démissionner. Quand j'ai vu la Nationale dans le 93 sous la pluie avec un hôpital psychiatrique en face de mon établissement, je me suis dit c'est pas pour moi. Et puis dès que j'étais en classe, j'ai eu envie d'y arriver. Alors c'était pas formidable ni grandiose, mais j'ai aimé, oui.
Vous avez fait 11 ans de ZEP. Dites-moi, au début aussi, quand on vous lisait Collège de France, au pluriel collège, tombeau pour le collège même, un peu plus tard, on se disait tiens, mais prends l'armure de Jules Ferry. Et alors, j'ai utilisé des comparaisons journalistiques, pardonnez-moi. Vous avez fendu cette armure.
Ouais, je crois que j'en ai plus besoin. Et puis, au début, Rétrospectivement, je m'aperçois que j'ai voulu me sauver moi-même au milieu des élèves, au milieu de la ZEP. Le but était de m'en sortir, de garder la tête haute tout en faisant mon métier, mais c'était un peu narcissique comme approche de l'enseignement, c'est-à-dire je vais rester digne, Jules Ferry n'aura pas honte de moi, je vais être formidable, je vais être cultivé, jamais démagogue. Et là, maintenant, j'ai plus du tout peur.
L'uniforme du hussard de la République vous boudinait.
Ouais, complètement. Et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je crois que c'est mieux d'être habillé joliment pour montrer que le savoir rend heureux.
Alors on va faire de la bonne humeur, il faut quand même respecter quelques règles, il faut suivre les programmes d'aussi près qu'on le dit.
Oui, alors là pour le coup on est très surveillé, il y a une certaine liberté pédagogique dans la manière de les faire, mais si vous oubliez un petit maillon intermédiaire d'un chapitre à l'autre, c'est considéré comme gravissime. Alors pour ça on est assez caporalisé quand même.
C'est considéré comme gravissime peut-être par les élèves, dont vous dites qu'ils sont souvent les plus réactionnaires, par l'inspection et aussi par les parents, parce que maintenant... Un prof, ça enseigne, mais ça doit renseigner les parents.
Oui, ils n'ont même plus besoin de faire des enquêtes ou de nous envoyer l'inspection. On se dénonce en permanence sur le cahier texte électronique, on valide des compétences, on met les notes en ligne, tout est visible, tout est vu. Oui.
Alors, on ne va pas parler de tous les programmes, on pourrait parler de l'instruction civique. C'est pas ce que vous préférez, vous trouvez que c'est un peu moraline. Pourtant, s'interroger sur les préjugés, les clichés, filles, garçons, enseigner les bonnes habitudes alimentaires, la biodiversité. Et votre copain, le Dédé.
Oh, je le sais. Pas mal. On n'en peut plus du Dédé, le développement durable. C'est le nouveau catéchisme. On a viré tout ce qui pouvait être kitsch à l'ancienne, la nation, tout ça, mais on l'a remplacé par le catéchisme développement durable qui gangrène les programmes du collège. Je ne supporte plus.
Et ça gangrène la géographie en particulier. Non, on va faire, nous, de l'histoire ancienne et médiévale. Et vous utilisez des documents, j'espère.
Bien sûr.
Parce que vous êtes encore un peu polycopié, vous.
De moins en moins, je me suis fait taper sur les doigts. Donc là, en ce moment, je reviens à des méthodes antiques. On recopie les documents du livre.
Ah bon, d'accord. Non, mais vous pourriez faire des PowerPoint.
Et il faudrait déjà qu'on puisse voir les tableaux blancs. Mais il n'y a pas de rideau aux fenêtres. Et donc, nous ne voyons rien. Les reflets du soleil nous empêchent de voir le tableau la plupart du temps. Et parfois, il faut des clés multiples dans chaque salle. Donc, on n'arrive pas à accéder à l'ordinateur. Donc, le plan numérique, on en est loin.
Oui, le comique vient du dysfonctionnement du numérique.
Oui, ça c'est très 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 drôle. Entre les injonctions numériques, le Graal numérique, notre relation au numérique et même aux objets, aux clés, aux vidéoprojecteurs, aux télécommandes qui n'ont pas de piles, ça c'est vachement marrant.
Alors, revenons au comique à l'ancienne, tel qu'il était produit par la RTF en 1954. Vous allez reconnaître, comme vos élèves, à qui vous en parlez souvent, l'Assemblée des femmes d'Aristophane, 5e siècle.
Que peut-il bien leur être arrivé ? N'ont-elles pas pu s'accrocher toutes seules leurs fausses barbes ? N'ont-elles pas réussi à dérober les habits de leur mari ? Ah ! Je vois une lumière qui s'approche.
Proxagora, es-tu là ?
Oui, j'ai passé la nuit à vous attendre. Ne bouge pas, je vais avertir la voisine, gratter à sa porte. Doucement, il ne faut pas que son mari se doute.
Oh, je t'ai entendu gratter pendant que je finissais de me chausser. Je n'ai pas fermé l'œil. Mon mari m'a pas laissé de repos. Enfin, à l'aube, il s'est mis à ronfler. J'en ai profité pour filer avec ses habits civils.
J'aperçois Clinaret et deux autres élégantes.
Pressons.
Oh, il en arrive, il en arrive.
J'en ai eu du mal à m'échapper.
Asseyez-vous en cercle sur vos talons, comme à l'assemblée. Avez-vous fait ce que nous avions dit, question peau ?
Moi, oui. Moi, voilà 15 jours que je ne m'épile pas plus de rasoir. Aussi, voyez.
Oh, un vrai buisson. Et vos postiches ?
Nos barbes ? Regarde, j'en ai une belle, une noire.
Et moi, une rousse qui m'arrive au nombril.
C'est le moment de les sortir. Pour le reste, sandales, bâtons, costumes, parfait. Pendant que les étoiles brillent encore, répétons ce que nous aurons à faire à l'Assemblée. Qui demande la parole ?
Moi !
À la bonne heure. Mets cette couronne et solidement campée sur ton bâton, jambes écartées comme un vrai mâle, vas-y !
Alors sur le cahier de texte électronique, maintenant on voit Planète des Femmes.
Oui, je mets Aristophane, ça fait beau. Je ne dis pas ce que j'ai raconté, ça pourrait inquiéter les parents, mais je mets Aristophane, oui.
Je dis Planète des Femmes parce qu'en fait, à propos d'Aristophane, vous parlez souvent de la planète des singes. Il faut faire avec les représentations des élèves.
Alors déjà, je trouve que c'est très bien de lire des pièces d'Aristophane aux élèves parce qu'ils s'aperçoivent que les gens de l'Antiquité étaient marrants. Pour eux, dès que c'est le passé, on est bête, triste, sinistre, pauvre, édenté, dans le froid. Donc déjà, je trouve ça bien de leur montrer qu'on pouvait se marrer il y a des milliers d'années. La deuxième chose, c'est on étudie la démocratie grecque. Alors, on est tellement critique, au bout d'un moment, les élèves s'indignent qu'à Athènes, les enfants ne votent pas, ni les femmes, ni les métèques, ni les esclaves, donc les métèques, les étrangers, terme de l'époque. Et j'aime bien leur lire ce texte parce que je leur dis, voilà, que propose Aristophane ? Il critique le fait que les femmes ne votent pas à l'époque, vous y croyez vraiment ? Alors là, les élèves disent, bah oui, il était féministe. Je dis, non, écoutez bien, il n'est pas féministe. Et donc je leur explique que pour Aristophane, une femme au pouvoir, c'est un peu comme pour nous, un singe au pouvoir dans la planète des femmes. C'est-à-dire qu'on ne l'imagine pas vraiment, on ne craint pas vraiment, mais on sent qu'il y a un problème quelque part.
Il vous appelle madame ?
Madame. Madame.
Vous avez confondu planète des femmes et planète des singes, comme Lebrun. Madame, qu'est-ce que c'est les sandales ?
Là, c'est les questions typiques des élèves. C'est-à-dire qu'ils vous cherchent toujours des petites nuances, des petits détails là où vous n'y attendez pas. C'est-à-dire que d'abord, les élèves sont obsédés par les pieds. C'est une chose incroyable. Et par les chaussures, vous leur montrez des mosaïques de Justinien, par exemple. Ils regardent les chaussures rouges. Alors ça, c'est pertinent. Ou ils regardent les sandales et ils vous disent comment est-ce qu'il y avait des semelles, quels étaient les liens, quels étaient tout ça. Donc ça fait partie des questions qu'on ne peut pas prévoir.
Madame, le temple de Jérusalem, imaginons que vous en soyez arrivé là. C'est couvert comment ? Bah oui, ça, c'est une question
tuiles plates,
durement
tuiles
difficile.
Tuiles creuses, ardoises, posent plein de questions. Le temple de Jérusalem aussi, leur question favorite, c'est les prières qu'on met dans le mur des lamentations aujourd'hui. Combien de temps elles restent ? Est-ce qu'il y a un service qui est là pour enlever les prières ? Ils posent 12 000 questions, mais c'est ça qui fait qu'un cours, c'est marrant.
On est toujours au 5e siècle. On est maintenant avec Sophocle. Œdipe roi.
Et tout à coup, conduit sans doute par un dieu, il se rue sur la porte close, l'enfonce à grands coups de poing, la chambre s'ouvre. Le corps de Jocaste est pendu au milieu. Œdipe pousse un cri inhumain, se précipite vers la morte et défait les liens qui l'étranglent. Le pauvre corps tombe à terre. Alors, chose horrible à voir, il arrache les agrafes d'or qui retenaient la robe de la reine et se laboure les yeux en hurlant « Non, mes yeux, vous ne verrez plus les maux que j'ai commis ni ceux que j'ai subis. Plus jamais vous ne verrez ce qu'il n'eût jamais fallu voir. » Et il se frappait sans relâche et le sang coulait sur ses joues, sur sa barbe comme une averse, un orage sanglant inondant son visage.
Réalisation de Georges Perrou, vous entendez un côté haut de Hurlevent, c'est dans la traduction de Jacques Lacarrière, très réaliste.
Et très gore.
C'est ça que vous auriez choisi, d'ailleurs, vous, comme traduction.
Plus c'est gore, plus ça a de succès. Là, c'est un peu austère encore. Les élèves adorent ce texte. Encore une fois, ils sont étonnés que dans l'Antiquité, on ait pu être gore. Ils imaginent que c'est une invention contemporaine et que c'est leur monde à eux. Je pense que ça leur fait très très bien comprendre la catharsis aussi, parce que c'est ça qu'on étudie. Donc ils disent, ouais, les Grecs, ils allaient au théâtre, après ça leur faisait du bien, ouais, franchement, non. Ils entendent ça. Je leur lis en général, de préférence, vers 8h30 du matin, après le petit déjeuner, c'est le bon moment. Et ils sont épouvantés.
Au moment de la dernière séance du cours d'histoire, quand j'étais petit, il faut toujours se méfier de faire la comparaison avec l'élève qu'on a été.
Il faut le faire, mais il faut dépasser cette comparaison.
Le professeur nous donnait toujours plusieurs sujets au choix, et il y en avait un qu'on élisait à chaque fois, c'était la passion du Christ. Oui, mais la passion, vous voyez, Matthias Grunewald, avec les clous, la chair qui pend, le côté gore, on n'utilisait pas encore ce mot. Mais comme il faut remettre de la bonne humeur dans l'enseignement de l'histoire, voici plutôt la vie de Brian, avec la passion du Christ, vous savez, le Christ se penche vers les larrons
et chante,
converse avec eux et leur propose de chanter.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Mara Goyet, le témoin de ce vendredi, qui enseigne l'histoire en collège, j'allais dire depuis la plus haute antiquité. Non, vous enseignez l'Antiquité et le Moyen-Âge. On va parler du Moyen-Âge dans un instant, mais on enseigne avec dans la tête des chansons, des images, une
des
bande
images,
dessinée, enfin nos représentations à nous.
On a des musiques intérieures, on a des tourments intérieurs, on a une vie incroyable pendant qu'on fait cours, on ne s'arrête pas de penser, on est concentré. Mais par exemple, on peut avoir des angoisses qui vous submergent quand on regarde la tapisserie de Bayeux et qu'il y a la comète de Halley. Tout d'un coup, je me dis, qui va voir le prochain passage de la comète de Halley en classe? Et tout d'un coup, je me dis, est-ce que moi, je ne la verrai plus? Et après, je suis
prise... Mais si, vous la verrez.
Limite. Donc voilà, il y a les tourments intérieurs, et puis il y a le cours à transmettre, et puis ce n'est pas un milieu chimiquement pur, le cours. C'est ça qui est très intéressant.
Et alors, vous êtes en train de vous remémorer une musique, de vous poser des questions angoissantes sur quel âge j'aurai au prochain passage de la comète de Halley, et pof, derrière vous, pendant que vous écrivez au tableau, vous racontez ça très bien dans votre dernier livre, Jules Ferry et l'enfant sauvage, Flammarion, une mouche, une grosse mouche, un gros insecte.
Voilà, arrive, tape sur le carreau, et là, mais il n'est même plus possible de faire court. Alors, soit on se braque en disant « Arrêtez de regarder cette mouche, c'est un scandale, écoutez ma belle transmission », ou alors on se dit, voilà, la mouche est là, il y a une raison pour qu'elle soit là, on est quasi mystique, et on essaie d'en tirer parti. Donc, une fois où même j'ai enlevé ma chaussure, je me suis mise à écraser la mouche sur le mur, et là, après, il y a eu un grand débat sur la réincarnation, sur le droit de l'animal. C'est ça qui est intéressant, c'est que le cours est préparé, le cours est pensé, mais il est sans cesse piraté. Quand on est un jeune enseignant, souvent on se dit, quelle horreur, tout est brouillé, tout est piraté, j'arrive pas à aller là où je veux aller. Et après, justement, on fend l'armure, on se détend et on récupère tout. On ruse, on recycle tout. Et ça, c'est vraiment des moments incroyablement agréables.
Mais au fond, vous êtes comme un joueur dans un jeu vidéo avec un danger à chaque seconde qui vous guette.
Oui, sans arrêt, il y a un micro-événement. Ça peut être un taille-crayon enrayé, ça peut être un élève qui est coincé dans son anorak, ça peut être des trousses qui tombe, mais 4 à 5 fois par cours, le bruit d'une trousse qui tombe, en plus ça me rend dingue, il suffit que j'en entende une pour que je sois énervée. Il faut réagir sans arrêt et faire court. Donc oui, c'est comme un personnage de jeu vidéo qui doit avancer, mais il y a sans arrêt un petit champignon lumineux, une petite haie, un petit...
C'est bien qu'on parle des jeux vidéo, parce que vous expliquez que les élèves, quelle que soit leur classe sociale, peut-être même les élèves des classes favorisées devant lesquelles vous enseignez maintenant, dans le 7e arrondissement, plus encore que ceux de ZEP que vous avez vu devant vous pendant 11 ans, et ben ils sont dans les jeux vidéo, les représentations issues des séries télé. C'est embêtant quand on est prof d'histoire, parce que les séries ont déjà tout raconté.
Mais justement, il y a un côté Belle au bois dormant. Les Simpsons ont par exemple entièrement fait le programme. Homer Simpson, il a tout vécu, il a tout vu. Il est allé sur les esnecs à la tapisserie de Bayeux, il est allé sur l'Acropole, il a tout fait. Et c'est intéressant d'en tenir compte, parce que justement, quand on n'enseigne pas devant des élèves vides, sans représentation. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre ce que l'on va dire, le plus précis possible, le plus érudit possible, et les représentations des élèves, et de créer les maillons intermédiaires entre eux et nous. Donc voilà, les Simpsons font partie de mon cours. Et encore une fois, on peut râler, on peut dire « mais arrêtez avec vos Simpsons, je les hais », ou on peut se dire « les Simpsons sont là, et c'est à moi de remporter le morceau ». Et c'est pas une lutte à mort, c'est une sorte de dialectique, pour parler prétentieux.
Il faut parler prétentieux de temps en temps, mais les vignettes qu'on a sur nos manuels, elles sont beaucoup moins fortes.
Oui, ça c'est vraiment dommage.
Saint-Louis sous son chêne.
Voilà, ouais, moi je me souviens encore des vignettes de mon enfant. J'avais un livre d'histoire quand j'étais à l'école primaire qui avait au moins 30 ans. Et toutes les images m'ont marqué, les images kitsch de Saint-Louis sous son chêne ou de Henri IV et Ravaillac. Et c'est dommage qu'on les ait perdues. Alors on les a éradiquées au profit de l'histoire savante, de l'histoire non ringarde, de l'histoire non édifiante. Mais là maintenant, on a des espèces de vieux documents qui laissent aucune trace. C'est vraiment dommage.
Oui, mais de toute façon, la parodie, parce que c'est très dominant dans les séries et les représentations dont vous parlez, et la plus forte, puisque on était avec les Monty Python. Continuons, si vous le voulez bien.
Sortez, mon mort ! Sortez, mon mort !
Ah, voilà ! 9 pence.
Je ne suis pas mort !
Quoi ?
N'en sais rien, voici vos 9 pence.
Je ne suis pas mort !
Il dit qu'il n'est pas mort.
Oui, il est.
C'est faux.
Non, il n'est pas.
Oui, il le sera bientôt et il est très malade.
Je vais mieux, c'est vrai.
Non, c'est faux, tu seras raide mort dans un moment.
Je ne peux pas le prendre comme ça. C'est contre le règlement.
Je ne veux pas aller dans la charrette.
Oh, t'arrêtes de faire le bébé, oui.
Ah, merci beaucoup.
Oh, c'est rien. Alors, je dis.
Ah, oui.
Yes.
J'en sais rien. Sûrement un roi.
Pourquoi?
Il n'est pas couvert de merde.
Donc au fond, partout, il y a des zones humides, comme on dirait aujourd'hui, avec des paysans boueux, et puis le roi, qui lui a quelques hectares propres.
Voilà, qu'on ne reconnaît jamais. Alors, il y a un cours très difficile en cinquième, c'est le cours sur la féodalité. Expliquer la féodalité à des enfants, c'est vraiment très compliqué. Le comprendre soi-même, c'est compliqué. Et les Monty Python, là, pour le coup, explique bien, parce que le roi Arthur, dans Sacré Graal, personne ne le reconnaît jamais. Quand il voit des Français, il est obligé d'expliquer pendant 20 minutes qui il est, et les Français disent « Ah bon ?» Quand il arrive dans ce village, on se dit « Tiens, oui, c'est peut-être un roi parce qu'il n'est pas recouvert de merde. » Quand il va parler à des paysans qui sont anarcho-syndicalistes, les paysans lui disent « Non, mais pour qui vous prenez? Pourquoi vous êtes roi ?» Donc il parle de la Dame du Lac et de l'épée. Ils lui disent « Non, mais c'est pas parce qu'une rada, ça fait une pantomime aquatique, ce sont les termes des Monty Python, qu'il faut vous prétendre roi. » Et les Monty Python, c'est vraiment génial pour étudier le Moyen-Âge, parce qu'on peut étudier seulement le Moyen-Âge en le faisant de manière très rigoureuse et stricte et sans rigoler beaucoup, mais je pense qu'il est intéressant aussi d'étudier l'idée que l'on se fait aujourd'hui du Moyen-Âge. Et là, les Monty Python sont géniaux. Il y a de la boue partout,
oui,
des morts partout.
Je comprends que vous rusiez en utilisant le vocabulaire des Monty Python, mais comment introduisez-vous le vocabulaire de l'amour courtois? Parce que vous n'y renoncez pas.
Ce qui est drôle, c'est de leur expliquer l'attitude du chevalier, de sa dame, à la fois inaccessible, lointaine. Alors les élèves pensent que c'est un peuple très prude, donc il faut expliquer aussi d'autre côté que c'est un jeu, que ce sont des postures. Donc vous leur dites que c'est pas si simple que ça. Mais le problème des cours sur le Moyen-Âge, c'est qu'on passe notre temps à dire que c'est pas si simple que ça. Donc on dit une chose et puis on dit le contraire. Puis ensuite on essaie de faire une petite synthèse. C'est un petit pas de danse, l'enseignement de l'histoire parfois.
Mais vous n'hésitez pas à introduire des mots compliqués. Quand à Saint-Denis vous racontez aux élèves que sur la voie rapide qui va du Stade de France à la Porte de la Chapelle, Saint-Denis était céphalophore, il marchait à pied avec sa tête sous le bras, mais ça marche.
Les élèves adorent d'abord le vocabulaire compliqué parce qu'ils ont l'impression que c'est une forme de complicité entre eux et nous, parce que ça va être souvent du vocabulaire que ne connaissent pas les parents. Alors ils aiment des termes comme eschatologique, stochastique.
L'empereur Constantin copronyme.
Copronyme, oui, au nom de merde. Ça, ils l'aiment beaucoup aussi. D'abord, il y a une forme de complicité. Ils voient ça comme un signe de respect. Et puis, ce qui est marrant, c'est ce qu'ils retiennent en priorité. Ils adorent, c'est un côté initié.
Et oui, il faut souvent prendre de drôles d'instruments pour voler dans l'histoire. Vous vous souvenez de l'Istronef? C'était Jacques Martin à la télévision le dimanche.
1214, nous avons à bord de cet Istronef les moyens de vous faire revivre cette bataille. Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous?
Je vous reçois.
Il se trouve que j'ai à bord de l'Istronef le roi de France, Philippe Auguste. J'ai proposé à Philippe Auguste de lui faire revivre la bataille qu'il a remportée, la fameuse bataille de Bouvines en 1214.
Rien de plus facile.
Donc, pouvez-vous nous envoyer les documents que vous avez mémorisés?
À l'instant.
Un instant, Votre Majesté, vous allez pouvoir assister à la bataille de Bouvines mieux que sur un livre d'heures.
Les livres d'heures, vous dites, il faut s'en méfier.
Oui, parce qu'on essaie toujours de montrer une belle petite image, comme les très riches heures du duc de Berry, avec les mois de l'année, c'est très joli. Et puis il y a toujours des petits détails, mettons des paysans qui se chauffent devant un feu et qui sont cul nus. Et ça, les élèves ne le voient pas. Dans un premier temps, je leur dis, mais regardez bien cette image.
Vous croyez que c'est prenant de...
Mais oui, parce qu'après, ça développe leur sens de l'attention et de l'observation. Mais après, ils voient des gens nus partout, c'est vrai, pendant 3-4 cours. Hein.
Parce qu'ils tournent frénétiquement, dites-vous, les pages du livre. Et...
Après, non, mais même, ils le consultent sur Internet. Mais c'est ça, tout est dans le teasing et la ruse.
Il fait très chaud en ce dimanche 27 juillet 1214 à Bouvines, dans le Nord. Même ces deux personnages sont accablés de chaleur. Une petite sieste avant la bataille ménage les forces. Tout le monde ne dort pas. Voici une armée. À qui appartient-elle? Pas de doute. Cet étendard, c'est bien celui de l'empereur allemand Otton. Nos deux endormis vont-ils s'éveiller à temps?
Jacques Martin, toujours 1981. Comment racontez-vous Bouvines?
Pas comme ça, ça serait la parodie que les élèves connaîtraient et il faudrait raconter l'original. Alors, raconter Bouvines, c'est compliqué parce qu'il y a eu 2014, l'anniversaire de Bouvines. On n'en a pas vraiment entendu parler, donc déjà plus personne connaît. Alors ensuite, bon, on raconte surtout le fait que Philippe Auguste soit revenu de la bataille et ait été acclamé. Et là, c'est compliqué. Parce qu'on dit aux élèves, voyez, c'est un signe quand même, il a été acclamé, il y a quand même l'idée de la France, du roi de France, ça montre quand même une sorte de progression, d'affirmation de pouvoir royal. Après, les élèves, dans une copie, vous mettent, tout le monde a applaudi Philippe Auguste, le roi est devenu monarchique, donc c'est un peu compliqué. Et puis après, il y a la fameuse histoire du dimanche.
Pourquoi c'est un dimanche?
Voilà, pourquoi c'est un dimanche? Il a été attaqué un dimanche, le jour de Dieu, où on n'a pas droit normalement de combattre. Et il riposte, et s'il gagne, c'est donc que Dieu l'a aidé. Et alors là, encore plus compliqué, il faut leur faire comprendre à quel point c'est important que c'est un dimanche. Et heureusement que Duby nous a convaincus, parce que sinon on en serait peut-être moins convaincus. Et puis ensuite, il faut faire attention à la laïcité, parce que les élèves disent, oui, une bataille gagnée par Dieu. Alors, non, c'est pas exactement comme ça. Donc encore une fois, où on se prend presque les pieds dans le tapis, mais comme un chat, on retombe sur nos pattes.
On vous écouterait longtemps raconter, par exemple, l'histoire contemporaine, encore que vous devez faire la guerre froide avec James Bond.
Oui, ça j'aime beaucoup. Oui, ouais. C'est un de mes projets. J'ai jamais réussi à vraiment le faire. Je trouve qu'en suivant tous les James Bond, je pourrais les passer les uns après les autres en classe. En plus, je ne serais pas trop fatiguée. On voit très bien le rôle de la guerre froide et voir comment, dans les derniers James Bond, on essaie de trouver des nouveaux sujets.
Alors, de l'usage des films, le dernier jour de l'année précédente, vous avez passé, avant de partir en vacances, comme souvent, l'enfant sauvage. Alors, il faut créer un climat, vous savez, comme à la fin d'une veillée, quand on est moniteur de colonies de vacances. La pénombre, la douceur, l'apaisement. Et vous avez regardé vos élèves, regardant l'enfant sauvage, l'enfant qui, venu de l'Aveyron, où il était resté seul et nu dans la forêt, et recueilli par le docteur Hydrac, par François Truffaut.
Attendez, madame Guérin, vous allez me demander du lait devant lui.
Je voudrais du lait.
Voilà, madame Guérin, voilà du lait.
Lait.
Bravo.
J'ai l'impression qu'il m'a entendu parler.
Oui, c'est curieux, ce n'est pas la première fois qu'il se retourne quand on parle derrière lui. Oh! Je crois qu'il reconnaît l'endroit d'où vient le son, et qu'il réagit surtout au son haut. Oh.
Notre pauvre sauvage n'a même pas de nom.
Et puisqu'il est particulièrement sensible au son O, on pourrait peut-être lui trouver un nom en O. Aurélien, Oscar, Nestor...
Victor, vous avez vu? Il aime ce nom-là.
Tu t'appelleras Victor.
Voilà, le dernier cours de décembre, vous étiez avec eux, dans la pénombre.
D'abord, le film est en lui-même, je trouve, très émouvant. Et voir des élèves voir ce film, c'est encore plus émouvant parce que, d'abord, au début, ils rigolent. Ils se disent, non mais le type, il sait pas marcher, il sait pas mettre des chaussures, qu'est-ce qu'il est naze ce Victor. Puis après, il se laisse prendre par le film et il le voit faire des efforts. Je crois qu'il se compare à Victor. Et puis, c'est un moment où les élèves mesurent ce qu'ils ont, eux. Et ils ont tout ce que n'a pas Victor. Et à la fin, dès que le film se termine, on rallume les lumières, les élèves se réveillent. Et ils me demandent, mais alors, il a adopté Victor, docteur Itard, il est resté avec lui? Je leur dis, non. Et ensuite, il l'a laissé vivre ailleurs. Et les élèves sont révoltés par cette sorte de pacte éducatif qui s'arrêtait en route.
Bah oui, mais c'est un éducateur. Il a d'ailleurs la diction, Truffaut, de l'éducateur.
Oui, il a une sorte de prosodie magnifique, douce et assez rapide et stimulante. En même temps, c'est un éducateur, c'est-à-dire qu'il éduque Victor du matin jusqu'au soir. C'est insupportable. Et puis, il le teste.
Oui, mais après, une fois que Victor est devenu ce qu'il devait devenir, c'est pas le sort que rêvaient peut-être les enfants pour lui, il fait autre chose, l'éducateur. Et vous, c'est pareil.
Oui, sauf qu'il a créé un lien, il l'a pris chez lui, il l'a soigné, il l'a nourri, il l'a bercé, il s'est vraiment occupé de lui. Donc c'est une sorte de lien inabouti. Et avec les élèves, c'est vrai que notre lien ne me semble pas inabouti, mais c'est vrai que ça ressemble. On aime ses élèves, mais en même temps, il ne vous manque pas l'été. Et après, à la rentrée suivante, on oublie leur nom. Mais il n'empêche qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'affection et de l'amitié avec eux.
Merci à vous, Mara Goyet, votre dernier livre, Jules Ferry et l'enfant sauvage. Votre blog sur le site du Monde, l'alchimie du collège, parce que depuis 20 ans, quoi, on peut le dire,
oui,
vous êtes en collège. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, Marion Philippe, à la technique Serge Viguier, la réalisation Stéphane Ronxin.